Bon, maintenant je vous rappellerai pourquoi j'avais cité ça la dernière fois. Si c'est la dernière fois, je ne me rappelle pas, j'ai tellement de casiers dans la mémoire. C'est ceci, c'est la suite. Voilà. Et alors, je vous lis la suite de la Mishnah. Yashvu vechadvu vechivnu otashar. Ils se sont assis et ils ont écrit exactement à quelle heure. Et d'ailleurs, le texte est très, très intéressant. Ça veut dire qu'ils ont calculé quelle heure c'est. Ils n'avaient pas de montre à l'époque. Mais kivnu, ça veut dire d'après je ne sais pas comment on peut dire. C'est en plein jour, mais enfin. Comment on a fait aujourd'hui ? Quelqu'un, stop. Et donc, ils ont précisé à quelle heure c'était qu'il avait dit. Pour Shebaou et Rabban Gamliel. Lorsqu'ils sont retournés chez Rabban Gamliel, Amar Lahen, il leur a dit à Avoda. Avoda, c'est une formule d'attestation, de serment. À Avoda, ça veut dire sur le temple. L'Ochi Sartem et l'Ochi Sartem. L'heure que m'a donné est exacte. À ce moment-là précis, et la Kachayama, c'est de Tasha'a, Halasatu Hama, Beshalanu Maïmishtot. La fièvre, la cité nous a demandé de l'eau à boire. Deuxième exemple à propos de Rabbi Chanina ben Dosa, chez Allah, l'ilmot Torah et tel Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il était allé apprendre la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le chala beno chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Amarlo Chanina beni, alors il a dit Chanina mon fils, bakesh alav rachamim veyichye. Prie pour lui qu'il vive. Et niach osho ben birka, vous bakesh alav rachamim vechaya. Alors Rabbi Chanina ben Dosa a prié. Et l'enfant a guéri. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai dit ceci. Il m'a dit, il ben Zakkai et Khosho ben Birka kol hayom kulo. Si Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, il parle de lui-même, avait prié toute la journée, lo hayom hashgichim alav, on n'aurait pas fait attention à lui. Amra lo isto, sa femme lui a dit, vechi chanina gadol mimeka. Est-ce que chanina est plus grand que toi, c'est ton élève? Amar la, l'âme, il a dit non, il n'est pas plus grand. Et là, mais Hudomek Ebed Lifna Melech, il ressemble à un serviteur devant le roi, va Nidomek Sar Lifna Melech, et moi je ressemble à un prince devant le roi. Et quelle est la réponse? La réponse est très importante et ça se relie. Et, non, je ne crois pas que ce soit avec vous qu'on a étudié ça, mais peut-être. Et, c'est la différence qu'il y a entre Lifna Melech. L'expression Lifna Melech n'a pas le même sens dans les deux cas. Quand il dit Rabbi Chanina ben Dosa est comme Eved Lifna Melech, c'est-à-dire face à face. Le Eved est en face du roi pour recevoir la parole du roi. Tandis que le Sar Lifna Melech, le prince, est devant le roi pour transmettre la parole du roi à ceux qui doivent la recevoir. C'est-à-dire le Eved est Mekabel, alors que le Sar est Mashpia. C'est-à-dire que ce n'est pas la fonction du roi, du prince. Ça, il faut dire ministre ici. Hein? Ce n'est pas la fonction du ministre d'être Mekabel. Donc de demander. Parce que la fonction du ministre, c'est de représenter le roi. Tandis que la fonction du Eved, c'est de recevoir. Donc de pouvoir demander. Est-ce que vous avez compris le sens de la réponse? Ils ne sont pas dans le même sens devant le roi. L'un est devant le roi comme ça, et l'autre est devant le roi face à face. Donc ça vient avec Kabbalah.
C'est la situation exacte dans laquelle se trouvait en train de la communauté
juive,
c'est bien Rabbi Yochanan.
Ah oui, il était exactement comme ça.
Dans la réalité.
Oui. Là, le Nassi, et par conséquent, le shefar de la bracha vient du Melech et le traverse pour aller plus bas. Tandis que l'autre est le Hevel, et alors le shefar de la bracha, lui, le reste. Rachid donne une toute autre explication, mais que vous pouvez faire rejoindre. Rachid dit ceci, le Eved peut entrer chez le roi n'importe quand, et demander n'importe quand, et n'importe quoi et n'importe comment. Il est familier du roi. Tandis que le Nassi ne rentre chez le roi que s'il est convoqué. Mais les deux explications finalement se rejoignent. Ce n'est pas au même registre, mais finalement les deux se rejoignent. D'ailleurs, ce Mahamar a été souvent cité par les chassidim dans leur controverse avec le Mishnayim. On verra en particulier dans le dernier chapitre du Nefesh HaChaim, de Rav Chaim Lev Volozhin, cette controverse est citée, lui, parle au nom des Mitnagdim sur le problème suivant. Vous savez que dans l'orthodoxie juive, le temps imparti à chaque prière est très strict. C'est-à-dire la prière du matin doit se dire de tel moment à tel moment et ni avant ni après. La prière de Mincha a son temps, la prière de Arbit a son temps, ni avant ni après. Les Chassidim ont pris l'habitude de négliger cette règle. Et si vous fréquentez des milieux chassides, vous verrez que cette règle n'est pas tellement appliquée. D'ailleurs, les chassidim ont leur propre système d'explication à ce sujet. Ça nous amènerait trop loin, mais enfin. Ça correspond très bien. Et alors les chassidim répondaient aux mitnagdim, oui, mais vous êtes comme des princes chez le roi, nous sommes comme des serviteurs chez le roi, plus familiers. C'est-à-dire, on peut rentrer n'importe quand. Tandis que pour vous devez être convoqué à heure fixe. Vous avez appris quelle est la question. Bien.
Je vais poser une autre question sur le fait que la Mishnah, il y a une différence.
La Mishnah, celle-là?
Oui, elle n'en limite pas l'air.
Ah, elle n'en limite. Alors reprenez le texte sur elle n'en limite pas l'air.
Ok. La suite n'est pas dit que dès que je suis venu au Bam, la vie en Shamaï. Je sais que nous avons la Gemara. La Mishnah dans la Gemara dit Ayusha. Or, la Mishnah, j'ai vérifié en plusieurs éditions, il y a une différence dans la formulation de la Mishnah dans les textes inclus de la Mishnah seule, c'est pas dans la Gemara. Au lieu de la Vierge Bachamayim, il y a la Makom. Donc, c'est curieux qu'il y ait une différence dans le texte. D'autre part, évidemment, on peut se poser la question lorsqu'on dit la Vierge Bachamaï, et quand on prie, est-il besoin de dire qu'on a besoin d'intentionner son cœur devant Dieu, comme si on pouvait se mettre dans la situation de Tfila alors que sans que ce soit devant Dieu. Donc ma question, bon, c'est une question de fond, mais en même temps sur peut-être que la différence qui a été faite entre la Mishnah, c'est le même texte de la Mishnah dans la Gemara, Makom d'une part, quand on sait par ailleurs ce que ça veut dire par l'Udrash Rabba, n'est-ce pas, comme l'âme, etc. Et ici, la notion de Arv.
Oui, alors écoutez, tout le monde a compris la question?
Non.
Alors réexpliquez.
Il y a, dans la Mishnah, nous avons ici, il y a une
différence
de texte. Bon, le verset dit, on ne se lève pour prier que si ce n'est du dedans de la lourdeur de la tête. Les premiers, les anciens fidèles attendaient une heure et priaient que Deïcheur-Kharnolibam, de façon à arriver à mettre une kavana, une intention de leur cœur, la Aviem, en direction de leur père, je ne sais pas jamais qui dans les cieux. Alors, la question. Qu'est-ce que ça veut dire de prier en se mettant attention devant Dieu? Est-ce qu'on peut prier en intentionnant son cœur à quelqu'un d'autre que Dieu? Par ailleurs, je constate que le texte de la Mishnah qui est dans la Gemara est différent du texte de la Mishnah seul, où à la place de la Vierge Bachamayim envers leur père qui est dans les cieux, il y a un autre terme, c'est la Makom. Makom, ça veut dire le lieu, c'est un des noms de Dieu.
Bien, alors. Sur cette question-là, je ne peux pas donner de réponse parce que je n'ai jamais étudié cela, ce point précis. C'est-à-dire pourquoi dans les Mishnayot il y a la Makom et par contre, dans la Mishnah il y a la Biyem Shema Shemaim. Bon, je vais venir à la question de fond. Par contre, vous avez une autre formulation que vous avez dans la Gemara elle-même. Alors regardez la deuxième page de la première Mishnah, ici à peu près. Vous avez une Braïta, Tanur Rabbanan, là.
La deuxième, vous l'avez tous, la deuxième page du texte que.
Il y en avait tout à l'heure. Non, pas
60.
Non, plus 60. Vous avez en haut, la madame.
La deuxième
page
que vous
avez
donné
tout à l'heure. En haut, vous avez le chiffre de la madame.
La dernière
page. La deuxième page.
Non. Vous voyez?
Ken.
Alors, montrez-moi. Je...
C'est la sœur.
Oui,
c'est
bon. Mais non, non.
Il y a pas de
non.
Alors là, vous avez une autre expression, c'est Tanu Rabanan, Hamit Palel, Tsarir, Sheikhaven et Libo, la Shamaïm. Non pas la Rihem Sheva Shamaïm, mais la Shamaïm. Une deuxième différence. Alors peut-être on peut relier d'ailleurs les deux questions. Alors je préfère prendre la question de fond pour expliquer cela. Et est-ce qu'il est nécessaire de donner une consigne pareille? Celui qui prie, c'est très bien qu'il est devant Dieu. Alors, deux réponses. D'abord, nous avons le même problème dans la Mishnah. En ondin li paré la mitzvah kovedroj. Et est-ce qu'on pourrait supposer que quelqu'un va entreprendre de prier sans être dans le kovedroj, c'est-à-dire dans une attitude sérieuse? De ça, nous avons parlé au séminaire précédent. Réponse simple, habituelle, c'est que il y a un chidouche de la Mishnah. La Mishnah connaît les hommes. Elle sait très bien qu'on risque d'être pris par, comme on dit ça en français, chidra. La routine.
La routine.
On risque d'être pris par par l'habitude, et il suffit d'avoir vécu existentiellement la vie même liturgique. D'ailleurs, je vous signale qu'il faut pas mettre de H à liturgie. Je vois très souvent dans les revues juives en français, liturgie avec H. Il ne faut pas mettre de H. C'est une parenthèse que je referme. Et j'ai vu ça récemment d'ailleurs.
C'est important l'H.
Comment?
Le H est important, non?
Oui, ça renvoie à un tout autre mot. C'est le T sans H. Donc, il y a un risque de familiarité, si vous voulez. Bon, mais c'est un chidouche à un niveau assez élémentaire. Je pense que la réponse doit être trouvée dans la profondeur même de la question. C'est-à-dire, celui qui prie ne doit pas penser à lui lorsqu'il formule sa demande, mais il doit penser à Dieu. Tsarir, Amit Palel, celui qui prie, Tsarir, chez Kaven Nibo, la Shamaïm. Est-ce que c'est clair? Oui, mais je vais expliquer, mais je voudrais d'abord que vous compreniez ce que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire la difficulté. C'est-à-dire, vous avez un autre verset des psaumes. Attends, ça c'est encore autre chose, Restons dans la même ligne d'abord. Essayez d'entendre bien le pshat de la braïta ici. Amit Palel, Tsarir, chez Kaven Nivo la Shamaïm. Il ne peut pas y avoir d'autre chat. Celui qui prie, pour pouvoir être exaucé, doit penser que ce n'est pas pour lui qui prie, mais pour Dieu lui-même. Nishwa Akecha Kiviti Hashem. Est-ce que c'est clair? Et on a fait allusion à cela avec Mima Amakim Kiraticha Hashem, ou Mina Metzar Kiratia. Mais vous avez un autre verset qu'on dit dans la Halel, qui est très clair, qui est très accessible. Dans la Halel, c'est qu'on dit. À part un autre verset, qui nous donne très exactement ce.
C'est quoi le verset?
Ma. Lola, no, Hashem, Lola. Qui est son crâne? Alors finalement, c'est cela, la kavana des chassidim dont il est parlé ici. Hasidim arishonim ayu shoim sha'a achat umitpalelim kedei sheichavnu libam la'aviem shemashanu. Première lecture, arriver à cette situation, être vraiment devant Dieu. Sheichavnu libam la'aviem shemashanaim, premier pshat, prendre au sérieux cette situation du devant Dieu. Arriver jusque-là. Les cœurs sont orientés dans le face-à-face, devant Dieu. Il faut une heure de préparation pour les chassidim, les premiers chassidim. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, nous sommes deux, trois quarts. Nous savons très bien que nous sommes toujours en présence de Dieu, non, on se cache. Pour arriver à à cette rupture avec la banalité pour pouvoir être dans la situation de devant Dieu, et c'est cela là, l'intitulation du Kovel Rosh, alors il fallait, au Chassidim, il fallait une heure pour arriver à monter les degrés dans la vie intérieure. Et ça, c'est le premier chat. Mais dans la Braïta, ça va beaucoup plus loin. Tsarich, Sheikavenibo, la Shamaïm. Ça veut dire que l'intention de prière, c'est pas pour moi, mais pour Dieu lui-même. Alors c'est là que j'arrive à ta question. Allez, une minute, je n'ai pas terminé. Ça veut dire que, qu'est-ce que je demande quand je demande ce dont j'ai besoin pour moi? Ce que je demande, c'est que le projet du Créateur pour moi se réalise. Je ne peux pas obtenir autre chose que ce que Dieu veut pour moi. Quand je dis, j'explique, je sais que c'est difficile, il faut aller doucement. Quand je dis que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse, qu'est-ce que ça veut dire? Je demande pour moi. Mais quelle est l'intention de piété? Si c'est pour moi que je demande pour moi, c'est de l'égoïsme. Mais si l'intention en vue que ta volonté se fasse, alors là, j'ai accompli ce que la... Je vais le dire de façon un peu peut-être grossière pour commencer. Je ne sais pas pourquoi tu m'as créé, mais tu as une raison pour laquelle tu m'as créé. Voilà que je suis malheureux. Ça veut dire que ta créature est malheureuse. Tu as intérêt à ce que ta créature ne soit pas malheureuse. C'est pour toi que je demande pour moi. Ça y est, c'est clair? C'est ça la cavane. C'est, ne crois pas que c'est pour moi que je demande. En réalité, je demande pour toi. L'Ishua Techa, qui lui dit à ce. Ça y est, c'est clair? Attendez, je finis de l'expliquer. Et je veux dire à quoi ça ressemble dans les apologues du Midrash. La mère veut donner à son enfant. Tant que l'enfant ne peut pas recevoir, la mère est dans le tsahar. Alors, l'enfant a intérêt à recevoir, pourquoi? Pour l'intérêt de la mère. Pour que la mère ne soit pas dans le tsahar. Qui bechol tsaratam lo tsah. Et lo avec vav. Bechol tsaratam lo tsah. Donc, la kavana profonde de la tfila, c'est lo lanu Hashem, lo lanu Israël. Ça a été plus clair? Je crois que parmi tous les versets qu'on a cités, le verset de l'Ishua Tera qui lui dit Hachem est le plus direct. C'est-à-dire, c'est dans les bénédictions de Jacob à ses enfants. Lorsque Jacob s'aperçoit qu'il n'arrive pas à prophétiser la fin de la galoute à ses enfants, alors il s'arrête au moment où il dit Gan Yadin Amo, Akeachat Yitzé Israël. Il s'arrête dans les bénédictions et il y a ce verset Yishua Techa Dim Kiaché. Vous verrez tous les midrashim et le citrati. À ce propos, si vous voulez, je vais donner la référence du verset, c'est dans les bénédictions de Jacob. Alors, le plat, c'est je ne vois pas de mérite dans ma descendance, j'espère en ton salut. Yishua Techa Dim Kiaché. Le plat, c'est le salut que tu nous donneras. Okay? Mais de façon plus profonde, de nouveau, ça veut dire j'espère en ton salut. Sauf qu'il faudra bien que tu sois sauvé. Alors, pour que tu sois sauvé, tu nous enverras la délivrance. C'est clair? Parce que tant qu'il y a la galoute, c'est la Shrina qui est en galoute. Alors, l'Ishua Techa qui est caché. Pourquoi j'espère que la galoute prendra fin? Pour que la galoute de la Shrina prenne fin. C'est donc la dimension de Amkut qu'il y a dans la Kavana. C'est clair? Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre?
Si on peut considérer que la prière de Hachem, si on sait que c'est très, enfin, par exemple, qu'il veut guérir les malades, qu'il veut, on sait qu'il veut tout ça. Mm-hmm. Bon, donc on demande, on sait qu'on dit sa volonté.
Oui, ça peut être rattaché donc à l'expression Yehi Ratzon Milefanecha. Ça veut dire que ta volonté se fait.
Mais le problème, il y a comment... à quel moment?
Oui.
Le problème de la prière.
Il y a
d'accélérer l'histoire. Ou de faire arriver maintenant.
Là, je crois que.
Tu en as parlé au séminaire.
Oui, là, je crois que pour ce point-là, je ne crois pas que la question se pose. Parce que la Gemara, dans Sanhedrin, dans Perek Relek de Sanhedrin, c'est les pages 100 à peu près de Sanhedrin, la Gemara étudie tous les signes et auquel on peut reconnaître que c'est le temps de demander par la tfila la fin de la galoute. À propos de Shelo Yitrekou et Taket, de Ktuvot, mais là dans Sanhedrin, la Gemara étudie tous les signes. Elle dit, Kalouko la Kutim, et même si toutes les fins possibles sont déjà dépassées, et que la délivrance ne vient pas, elle viendra quand même. Alors là, il y a une phrase qui se relie au fond à notre préoccupation ici, c'est Dayo la Evel Meeblo. Dayo la Evel Meeblo, ça veut dire, en fin de compte, celui qui est en deuil mettra fin à son deuil. Et Rashi donne deux lectures. Qui est en deuil dans la galoute? Premièrement, Israël est en deuil dans la galoute. Alors, il finira par mettre fin à son deuil. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans l'état de deuil est un état anormal. Même s'il est nécessaire de prendre le deuil parce qu'il y a une catastrophe, on n'a qu'une seule exigence, c'est que de sortir du deuil. D'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse, mais vous savez certainement que du point de vue du Shulchan Aruch, c'est un problème extrêmement important que ce problème du deuil. Il n'y a pas de trace dans la Torah Shebichtav des lois concernant le deuil. Toutes les lois concernant le deuil sont de la Torah Shebaal Peh. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a Asmarta, nous savons qu'il y a des allusions que le deuil est pratiqué. Mais il n'y a aucune législation du deuil dans la Torah Shebichtav. Donc il apparaît le principe suivant. C'est que le deuil est une donnée naturelle. Et la Torah légifère pour la sortie du deuil, et pas pour imposer le deuil. Et vous voyez d'ailleurs comment se passe la sortie du deuil. Le deuil le plus intense, c'est tout de suite. Il dure 7 jours, à la fin des 7 jours, on sort du deuil intense pour entrer dans un deuil moins intense, qui est le deuil du premier mois. À la fin du premier mois, on sort de cet état pour entrer dans un deuil moins intense, qui est le deuil des 3 premiers mois, qui est pratiqué par certaines communautés, il y a un anniversaire au troisième mois. Et puis, ensuite, la première année, qui est un deuil beaucoup moins intense, et on s'arrange pour économiser le plus possible. Dans tous les cas, la première année, on n'a pas le droit d'être en deuil plus que 11 mois, vous savez cela. Et ça veut dire, dès le premier jour du 11e mois, c'est déjà le 11e mois, au matin, on s'arrête. Donc, 10 mois et un commencement de jour. Vous avez remarqué cela. Et ensuite, l'anniversaire, c'est un jour par an. Et le plus rapidement possible, ce jour d'anniversaire de deuil est transformé en fête. Donc, la Torah légifère précisément pour la sortie du deuil et non pas pour imposer le deuil. C'est-à-dire, le deuil est confirmé par respect pour le mort, mais en fait, la liturgie du deuil est incompatible avec la Torah. Et c'est la raison pour laquelle les Kohanim ne s'occupent pas de ça. C'est la seule religion au monde où les prêtres ne s'occupent pas de la mort. Dans toutes les autres religions, la fonction du prêtre, c'est de s'occuper de la mort, sauf dans la Torah. Les Kohanim, ça leur est interdit de s'occuper de ça. Et nous comprenons pourquoi. Parce que c'est incompatible avec ce que la Kedusha de la Neshama du Kohen. C'est contradictoire. Et donc, inévitablement, il y aura fin à ce deuil. Ce que je voulais citer, c'est l'impatience que le deuil prenne fin. Et puis alors, la deuxième lecture de Rashi, c'est qui est en deuil? C'est Dieu lui-même. Alors on peut, il est le Dieu vivant, donc on peut être assuré qu'il mettra fin au deuil. Mais c'est moi qui ajoute, le plus vite possible. Comme nous disons d'ailleurs dans les prières, « Vimehera be'yamenu, ba'agala u'yvan kari » Du point de vue de la halakha, nous avons des références d'autre part, c'est un peu compliqué de citer que de mémoire. Du point de vue de la halakha, la crainte de mettre trop tôt fin à la galoute de la Shrina, qui en fin de compte, puisqu'il y a cet événement, c'est qu'il a une fonction, c'est qu'il a un objet, et donc il ne faut pas risquer d'échouer cela, du point de vue de la halakha, elle n'a force de loi que le premier millénaire, après la destruction du temps. C'est-à-dire ça fait 1000 ans que nous sommes en retard. Et d'autre part, cela ne concerne que les exilés qui habitaient à Babel même, et pas ceux qui habitaient dans les autres pays. Donc nous ne sommes pas concernés par ce dîme. Voilà, parce que c'est Rav Yehuda qui enseigne dans Ketuvot, dans Shabbat, qu'on l'a relémi Babel, celui qui met fin à l'exil de Babel de façon anticipée. Donc tous ceux qui n'habitaient pas à Babel, de l'exil de Babel du Beit Rishon, n'étaient pas concernés par cette Shavua, n'étaient pas concernés par cette...
C'était la thèse de s'inquiéter des temps de Ravatia.
Non, c'est un autre livre. Le Ravatia va beaucoup plus loin.
Déjà dans. Mais ça c'est discutable.
Non, je dis du point de vue de la halakha. Du point de vue de la halakha. Premièrement, les grands poskim n'ont jamais considéré que c'était un problème de halakha. Mais certains poskim des rabbins Ashkenaz ont considéré que c'est un problème de halakha, mais ils ont établi eux-mêmes que même si on admet que c'est un problème de halakha, ça ne peut concerner que les gens de Babel. Le Rav Atiyah ne fait pas allusion à cela. Non, le Rav Atiyah, lui, a donné une autre indication. C'est que l'année qui a suivi la destruction du temple, il fallait déjà se préoccuper de revenir. C'est une sorte d'économiser le temps de la Shrina de la Lune. Mais du point de vue de la halakha, en fin de compte, la seule thèse qu'on peut retenir, c'est que ça dure 1000 ans. Et pour les gens de Babel, et pas pour les autres. Puisque c'est tout un contexte sur le verset de Jérémie, que la Olemi Babel, Oververas. Parce que le verset dit Babela, Ihi, les Shamaïli, Adion Pokdiotam. Bien, c'est un autre problème. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, on pourra l'étudier, puisque nous l'avons toute la semaine en Gemara le matin. Si ça vous intéresse, on pourra étudier ça dans le fond. Ça vaut la peine sur la Gemara elle-même. Bien, maintenant, il va ne nous rester qu'une demi-heure. On commence aussi avec la Mishnah, je voulais proposer d'étudier avec vous. Donc, nous sommes déjà dans la synthèse du sujet. C'est une autre préoccupation de la Mishnah que vous allez prendre donc à la page 66.
Du chapitre 5.
Je vais vous lire la Mishnah. Du chapitre 5.
Je vous raconte. Hein.
Dans le raconte. Alors, nous allons d'abord étudier la Mishnah. Là, je vous dis tout de suite dans l'introduction, c'est une préoccupation un peu différente que la première Mishnah du chapitre, qui n'est pas la définition du sentiment religieux dans l'expérience de prière, mais va s'introduire une préoccupation proprement théologique, c'est-à-dire dans la forme, de la formulation même de ce que je dis dans la prière. Est-ce qu'il ne risque pas de se glisser des ce que nous appelons en termes théologiques des hérésies, c'est-à-dire des conceptions du monde hérétiques par rapport à l'enseignement de la Torah. Ou si vous voulez, pour formuler ça d'une autre manière, est-ce que nous avons le droit de dire n'importe quoi dans la prière? Vous voyez que ça se relie toujours à la question du chapitre, qui est la question du Kohel Rosh, de la kavana de la prière. Et est-ce que nous avons le droit de dire n'importe quoi? Alors, lisons tout de suite la Mishnah. Haomet, celui qui budit. Et pour la prochaine fois, nous allons reprendre ça très en détail, c'est-à-dire demain matin. Je vous demanderai d'apporter un chumash avec Rashi. Il y en a dans la maison, vous voyez. Bon, alors s'il y en a dans la maison, c'est pas la peine, mais je vous indiquerai quel passage préparer pour demain. Et si vous avez un chumash avec le Rambam, avec Nachmani. Haomet, Alkan Sipo Yagiur Hamecha. Celui qui dit, Haomer. Vous voyez dans la Mishnah, au milieu de la page, hein? Haomer. Celui qui dit, sous-entendu, ça veut dire celui qui dit dans sa prière. Haomer. Vous voyez, Al-Kam Sipor Yagiur Rahamecha. Jusqu'au nid de l'oiseau arrive ta miséricorde. Celui qui emploie une formule de ce genre dans sa prière.
Mais pourquoi vous l'emploie?
Justement, on va se demander pourquoi il l'emploierait. Ve'alto v'izacher shimcha. Et que ton nom soit mentionné sur le bien. Ou bien, troisième formule, modim, ça veut dire nous reconnaissons ta souveraineté, modim. Ou ça veut dire aussi nous te sommes reconnaissants. Un peu dans les deux sens du mot reconnaissance en français lui-même. Les autres. Soit reconnaître la souveraineté de quelqu'un, soit être reconnaissant de quelque chose, remercier. Okay? Mais celui qui dit deux fois de suite le mot modim, mais chatekinoto, on le fait taire. Ça veut dire qu'on va considérer que ces trois formules qui nous sont données en exemple ici sont des formules hérétiques et qu'on n'a pas le droit de les dire dans la prière. Je vais vous signaler tout de suite une remarque de Tosfos qui n'est pas dans la page, parce qu'elle est dans la page suivante, mais je vous la lis, elle est juste une ligne. תוספות סיק לגמרא לירושלמי, לנו זה פיזיון לבבלי, לגמרא לירושלמי שעושה את משנה דיפסי, הדד את אמה בציבור, אבל ביחיד תחנונים הם. C'est-à-dire, il s'agit de la prière en public. Si quelqu'un prie tout seul et emploie ces formules, on considère que c'est des formules de supplication et on le laisse dire. D'ailleurs, il n'y a personne pour l'entendre. Il n'y a pas qu'il prie tout seul. Mais dans la prière en public, la manière dont on formule l'adresse à Dieu, la parole qui est adressée à Dieu, implique une théologie. Et par conséquent, en public, il y a risque d'hérésie et non pas en prière. Une petite parenthèse historique. Au temps de la Mishnah, nous étions déjà dans un temps où l'initiative de la prière personnelle était encore très fluide. Ça veut dire le Shaliach Tzibur, le Chazan, allait devant la Teva, et puis il avait la possibilité de formuler lui-même des introductions à la prière, ou des bakashot, des piyutim, des prières de circonstance qu'il formulait lui-même. C'était encore en un temps qui était proche de la capacité de prophétie. Il y avait cette capacité de pouvoir formuler, dans la forme même, le véhicule de la demande. Et puis, nous avons de plus en plus perdu cette capacité. Je pense que vous savez que sont très rares les hommes qui sont capables de formuler des prières nouvelles. Et en particulier, pourquoi ? Parce que la formule de la prière implique dans la relation à la capacité prophétique, implique toute une sûreté, une précision de la connaissance théologique. Est-ce que c'est clair ? Ou encore une autre parenthèse. Ce sujet est étudié au début du 11e chapitre de la Gemara de Sanhedrin, dans les croyances. Ici, c'est dans les formules de la prière, mais dans les formules des croyances. Et nous avons la même expression, Haomer, celui qui dit que. C'est lui qui dit, deux points, ouvrez les guillemets, et puis il dit une hérésie, telle ou telle formule qui n'est pas compatible avec l'orthodoxie de pensée de la tradition. Alors, en fin de compte, la Gemara nous fait bien comprendre que celui qui a autorité pour parler au nom de la tradition est concerné de façon grave. Celui qui n'a pas autorité, on considère qu'il a dit une bêtise. C'est-à-dire, on ne va pas voir à peu près le problème. C'est très parallèle à ce que nous voyons ici dans cette note de Tosfos. Celui qui prie tout seul, il est emporté par son émotion, par son enthousiasme, par sa propre expérience, se glisse dans sa parole des formules qui, si elles étaient étudiées au nom de la connaissance de la Torah, seraient établies comme hérétiques. Mais il est simplement pris dans l'émotion de son enthousiasme religieux, alors il y a une tolérance. Mais Betzibur, en public, là ça engage la communauté, et c'est là que Meshach Tekinoto, on le fait. Et en particulier, c'était l'époque où les hérésies ont commencé à se multiplier en Judée, en Israël, et en particulier l'hérésie chrétienne, et vous verrez par exemple que la dernière des formules se dirige nettement par rapport aux judéo-chrétiens, modim, modim, de répéter deux fois la formule d'allégeance, un pour le Père et l'autre pour le Fils, par exemple. Eh bien, c'était là, l'expérience privilégiée, on pouvait déceler s'il y avait hérésie. C'est-à-dire, lorsqu'on entendait, dans la formule de prière de celui qui priait, une théologie déjà décalée de l'orthodoxie. Alors, c'est là qu'on se rendait compte qu'on avait affaire à un christianisant, ou à un sadducéen, ou à un essénien, etc. Vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Parce que dans la discussion proprement philosophique de l'étude des propositions théologiques, ça peut ne pas être clair, mais dans la formule de prière, on se rend très bien compte devant quel Dieu il croit être. Alors là, le critère est absolu. Vous avez compris le poème.
Et alors aussi, de mémoire, le texte de cette Mishnah, est plus complet.
Il y a une autre formule.
On ajoute une autre formule, je ne me souviens plus, et on dit ceci.
Devant le Chochatovim.
Voilà, c'est simplement bon. Il n'y a pas erreur théologique, mais simplement, oui. On n'est pas obligé de le faire taire. Bon, il s'est trompé. Donc là, on introduit, ce que j'ai dit tout à l'heure, la différence entre ce qui est hérésie et ce qui est simplement, bon, disons, de l'erreur, mais qui n'a pas besoin d'être arrêté.
Ce
n'est plus la...
Il y a Baruch HaTovim, mais le RIF, si.
Voilà, il y a Baruch HaTovim.
Et
Et d'ailleurs, ce qui vient de rappeler ce relief de Rabbi Kantata. Edith disait tout à l'heure, dans le problème de la Mishnah que nous avions tout à l'heure, Amit Palel Vetara, celui qui prie et se trompe. S'il y a vraiment autorité pour exprimer la prière de la communauté qui se trompe, c'est grave. Mais si c'est quelqu'un qui est pris dans l'enthousiasme de la prière, bon, c'était un balbutiement d'amour.
Et la Mishnah continue, n'est-ce pas, une chouïa, si vous vous, si malra,
les chouïas. Ken.
Donc, il va beaucoup plus loin.
Oui, peut-être on reprendra cette Mishnah demain ou après-demain. Alors, nous avons donc là un programme qui est à deux niveaux. Hein. C'est à la fois une étude sur l'authenticité des formules de la prière, mais derrière l'authenticité des formules de la prière, il y a une préoccupation de la définition des problèmes théologiques que cela pose. Est-ce que c'est clair? Nous allons un peu nous accrocher, parce que là aussi nous sommes obligés d'entrer dans une certaine profondeur. Alors on a donc trois formules qui sont exclues. Premièrement, « Al-Kan Sipo Yagiru Rahamer ». Je vais paraphraser pour essayer de restituer la situation possible de quelqu'un qui emploierait une formule pareille dans sa prière. Ta miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau. Vous vous rappelez de la question tout à l'heure? Et pourquoi quelqu'un aurait l'idée d'une telle formule? D'abord, c'est joli. C'est pas interdit d'être poète si on est priant. Et lorsque quelqu'un entreprend de prier, parfois lui viennent des formules poétiques. Et c'est très joli. Ô toi, dont la miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau. Mais en réalité, il y a un problème de fond derrière. Il y a une mitzvah difficile, d'ailleurs, dans la Torah, et je vous demandais d'ailleurs de préparer le texte, donc de la référence, c'est dans la paracha de Kitetse, dans Devarim, et Zéhout. Et une Mishnah qui dit ceci. Lorsqu'on est en chemin, dans les champs, et puis on rencontre un nid d'oiseaux, alors on n'a pas le droit de prendre les œufs ou les oisillons ou les petits dans le nid tant que la mère les couve. Il faut renvoyer la mère pour avoir le droit de prendre les petits. Bon. Nous étudierons demain sur le texte la mitzvah pour elle-même. C'est un sujet pour lui-même, mais pas simple. Et alors, je pourrais faire le raisonnement suivant, nous dit la Mishnah, et c'est donc qu'il était fait à l'époque. Si nous avons une Mishnah tout entière pour cette formule, c'est qu'il y avait une hérésie de ce type. Dire ceci, toi, dans ta Torah, ta miséricorde est allée jusqu'à te préoccuper du nid de l'oiseau avec une miséricorde particulière. Toi, dans la miséricorde, va jusqu'au nid de l'oiseau, toi aie pitié de moi. Voilà le genre de formule qui pourrait venir à l'esprit de quelqu'un qui prie et qui connaît la Torah.
Dans la littérature française, il y a deux vers célèbres. Le petit des oiseaux donne leur pâture et sa bombe est étendue de toute la nature.
Surtout dans la nature. Et d'ailleurs, c'est un psaume qu'on lit le Shabbat matin. Un psaume qu'on dit le Shabbat matin. Donc, alors vous voyez pourquoi Tosfot dit, si c'est simplement dans une prière personnelle qu'il est pris par une espèce d'enthousiasme, même poétique, donc, marlé, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas grave. Hein, il prie. Mais s'il formule une conception du monde, alors là, on le fait taire. Parce que ça veut dire déjà qu'on est dans une religion différente du monothéisme hébreu, du monothéisme juif, et en quoi? Est-ce que c'est clair comme...
On retrouve cet exemple dans les entreprises, à un moment donné, il y a un sermon qui dit qu'on ne valait pas mieux que les oiseaux en parlant du travail, et on parle justement de ce que...
Oui, et je suppose que Saint-François d'Assise a dû approfondir cette ligne, à Bélis, puisque c'était ses petits frères, les petits oiseaux. J'ai été, enfin, profiter un peu de ça pour exagérer un peu, mais pour vous montrer quel était le souci de la Mishnah. Alors ça veut dire que le monde se divise en deux catégories. Les oiseaux et moi, on a le même Dieu, et tous les autres, un autre Dieu. Vous voyez tout de suite quelle est la perspective qui suit. Hein? Ça veut dire Dieu est le Dieu des oiseaux et de moi. Ça, c'est Saint-François d'Assise. Okay? C'est une hérésie monumentale, parce que Dieu est le créateur de l'univers tout entier. Vous voyez ce qui se glisse insidieusement. Et puis tous ces cultes où vous avez la colombe qui est censé représenter la miséricorde du Créateur sur ces créatures. Et si certains d'entre nous se préoccupent un peu d'archéologie,
Vous savez que ce culte de l'adoration de la colombe était très répandu au Moyen-Orient en général, et en particulier dans le pays de Canaan. On a encore des frontaux de maisons ou des poteries où on voit le petit porc qui représente ce qui finalement deviendra le Saint-Esprit chez les chrétiens. Et nous sommes donc bien dans la perspective d'hérésie grave. Ouais, nous sommes partis apparemment de quelque chose d'anodin, quelqu'un qui se réfère à une phrase qui n'est pas fausse en elle-même, mais elle est fausse par omission, si j'ose dire. Que Dieu se préoccupe de la miséricorde pour le nid de l'oiseau. De même, nous nous poserons la question, mais quelle miséricorde il y a là, que pour avoir le droit de prendre des œufs dans un nid pour envoyer la mer, c'est de la cruauté, c'est pas de la miséricorde, mais ça, on se posera la question demain. D'ailleurs, la mitzvah pour elle-même est très difficile à comprendre, dans cette mentalité de « Al-Kan Tzipo et Al-Dihu Rahamer ». Fin de la première bande.